déambulation.
Du coup, on fait quoi ?
On fait comment ?
On fait une interview, on va voir quelqu'un ?
Peut-être qu'il faut trouver un thème de base ?
Moi, je pensais à l'artisanat.
Alors, c'est vrai, c'est une bonne idée. En plus, on fait du bruit toute la journée, en vrai. Ouais. Mais vous en connaissez des artisans sortis ou pas ?
Il y a peut-être Jean-Paul dans la rue de l'Herbellerie, le tourneur
sur
bois.
Ouais.
Ah, il est sympa.
Mais tu penses qu'il serait chaud de faire une interview ?
Je sais pas, on peut essayer de l'appeler.
Bah ouais, quand même.
Flo, ça t'irait toi ?
Alors d'accord.
D'accord. Yes.
T'as ah, allez, compte.
Je crois que je l'ai. Alors. Allô ?
Oui, bonjour.
Salut, c'est Tiffaine.
Oui.
Ouais. Oui, je t'appelle, on fait un atelier à Air d'Iwa. Et on cherche un artisan d'Iwa à interroger, à interviewer. Et je voulais savoir si ça t'intéresserait qu'on vienne faire une petite interview dans ton atelier, peut-être aujourd'hui. Ouais. Ok, au top, trop bien. Ça roule. Et ben autant, on peut être là dans pas longtemps. Nickel. Ok. À tout à l'heure. Ouais, à toutes. Et ben ça lui va.
Mais tant qu'on peut y aller maintenant. On peut y aller maintenant.
Bah ça va. Flo ?
Allez.
Ouais, ça va ?
Trop bien.
Here we go.
C'est tellement bizarre d'entendre le monde comme ça.
Bonjour. Milan de Radio Diwa.
Salut.
J'accompagne la petite bande, la joyeuse bande de reporters.
Bonjour,
ouais, ok.
Comment vas-tu ?
Bon, ça va ?
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ?
Alors, qui je suis ? Ah, ça va être compliqué. Donc, je m'appelle Jean-Paul Ampi. Donc, je suis tourneur sur bois depuis 2014. Enfin, j'ai ouvert l'atelier en professionnel depuis 2014. Et je tourne le bois depuis 2011. La première fois que j'ai tourné le bois, c'était en 2011. Donc, finalement, c'est assez récent. 10 ans, une dizaine d'années pour un métier artisanal, c'est jeune. Hein. Parce que souvent, quand on attend une maîtrise, que ce soit en ébénisterie ou autre, il faut au moins 10-15 ans quoi, pour être un bon professionnel, on va dire. Okay. Donc là, je commence tout juste à être professionnel, on va dire. Ensuite, pourquoi le métier de tournage sur bois ? Bon, ça c'est un vieux rêve d'avoir tourné, de travailler le bois. Bon, quand j'étais jeune, j'avais envie de travailler le bois. Puis j'ai pas eu trop l'occasion. Et donc là, arrivé à une cinquantaine d'années, je me dis tiens, il y a un changement dans ma vie. Peut-être que je pourrais faire quelque chose de bien, enfin. Donc, donc voilà, j'ai vu sur internet et puis je me suis inscrit à un stage et tout de suite ça m'a plu de voir ce bois qui se déroule et qui se ferme sous le coup de la gouge. C'était assez fascinant et donc tout de suite j'ai voulu acheter un tour, etc., me former et voilà. Et donc après j'ai fait la formation à l'école Escoulaine, donc c'est une école qui se trouve dans le Var, qui dure 6 mois. Et là, j'étais plongé dans le tournage 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Et c'était que de la pratique avec Escoulaine. J'ai eu la chance de le faire avec Jean-François Escoulaine, qui est un tourneur de renom mondialement connu. Donc voilà, donc j'ai été son... On peut dire peut-être son disciple, je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors, bonne question. Donc j'étais à partir de 1979, j'ai passé un concours à France Télécom. Donc j'étais technicien pendant 25 ans à France Télécom. Ensuite, j'ai eu l'occasion de venir sur le village d'enfants à Vercheny. Donc j'ai fait éducateur, plutôt famille d'accueil au village d'enfants à Vercheny pendant 8 ans. Donc c'était une riche expérience, hein, très riche. Mais au bout d'un moment, elle est un peu trop riche, donc on arrête. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'après je me suis dit, c'est le moment de trouver une reconversion, une deuxième reconversion. Et donc le but, pourquoi j'ai quitté, alors j'étais dans la région parisienne, en France Télécom, ça me donnait envie de tourner une page dans ma vie avec ma famille. Donc on a eu l'occasion de venir dans ce village, qu'on a été accepté. Et là, ça nous a permis de tourner une grosse page, quoi. On a tout quitté, la famille, les copains, la musique, pour retrouver une nouvelle vie dans le Diwa. Voilà, et je ne regrette absolument pas.
Donc du coup, tu nous as dit que tu étais arrivé dans le Diwa pour changer un peu de vie, etc. Et comment tu connaissais le Diwa avant? Genre, qu'est-ce qui a fait que Di, ça a été la ville où tu t'es installé pour venir faire du tournage sur bois?
Oh, c'est simple. En fait, je venais dans le Diwa parce que j'avais une amie d'enfance qui habitait à Di, hein, donc qui a déménagé à Di parce que ses parents habitent à Di. Et donc, régulièrement, en vacances, on venait la voir. Et voilà. Et c'est elle, justement, qui nous a fait venir, qui a trouvé ce boulot à Vercheny, au village d'enfants. Donc, elle nous a dit, ah bah tiens, il cherche des gens. Donc, voilà. Comme c'est une amie qu'on connaît depuis l'âge de 10-12 ans, donc on lui a fait confiance. Et voilà, donc, mais je connaissais le Diwa par les vacances, parce que bon, c'est une belle région. Et je venais depuis déjà une dizaine, quinzaine d'années ici avec les enfants. Voilà.
Comment ça se passe une journée, genre une journée classique pour toi dans ton atelier? Comment ça se déroule de A à Z?
Alors c'est spécial parce que je suis à la fois, c'est à la fois un magasin où je vends des choses. Et je travaille aussi dedans. Ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent me voir travailler, peuvent voir confectionner des objets, tourner des objets, etc. Donc ça, c'est la particularité de ce lieu, parce que les gens peuvent venir acheter, évidemment, des objets, ce que je souhaite. Ça veut dire que ça plaît. Mais surtout aussi, voir ce que je fais. Et donc, ça me permet de partager une passion aussi. Et ce qui est... là, il faut jongler entre le fait de travailler, le fait de recevoir les gens. Alors, c'est pour ça que si tu peux voir, là, entrée libre, c'est juste le mercredi matin et le samedi matin. Bon, c'est évidemment, c'est les jours de marché. Donc, les jours de marché, je suis là pour les gens, il n'y a aucun problème. Ils viennent, c'est ouvert, les gens, ils peuvent venir. Après, je ne mets pas... les autres jours, c'est juste sur rendez-vous. Parce que même si je suis là, des fois, je peux être derrière, en train de couper des gros morceaux de bois. Et là, je ne veux pas être dérangé parce que c'est bruyant, ça peut être dangereux si je suis distrait. Parce que tu verras tout à l'heure, on peut se couper les doigts, etc. Enfin, il vaut mieux faire attention. Et puis des fois, j'ai besoin d'être tranquille parce que j'ai une pièce compliquée à faire. Donc, je ferme la porte et puis bon, je suis tranquille. Ceci dit, s'il y a des gens qui regardent et qui veulent rentrer, je m'arrête, j'ouvre la porte. Et à ce moment-là, on peut échanger et partager des choses. Mais il faut savoir jongler avec ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter que pendant ton travail, pendant que tu fais quelque chose, des gens puissent arriver et poser des questions. Et là, on change de casquette. Donc la journée de tourneur sur bois, donc, je commence, j'ose pas dire à quelle heure je commence, mais... Parce que j'aime bien prendre mon temps, en fait. Hein. Donc je commence. Déjà, en général, j'essaye de préparer la veille des morceaux de bois pour pouvoir les tourner, d'avoir la tête fraîche le matin. C'est déjà préparé. Donc là, j'en ai de la poussière. Ça, c'est un inconvénient aussi du métier, c'est qu'on cherche souvent ces outils ou ces morceaux de bois. Et on passe plus de temps à trouver, à chercher. Donc je prends une pièce, je sais ce que je vais faire, je la tourne, c'est plus tranquille. Des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, le soir, je suis crevé et puis je rentre chez moi. Le balai n'est pas passé, c'est le bazar dans l'atelier. Bon, le matin, quand j'arrive, effectivement, c'est pas la joie, quoi, parce qu'il faut tout ranger. Ensuite, Bah voilà, je commence à tourner, je regarde ce que j'ai à faire. Suivant ce que j'ai vendu, bah, je me dis, tiens, il manque certaines pièces, donc je vais faire cette pièce. Et puis ça, c'est aussi au niveau du feeling. Des fois, j'ai envie de faire des petites choses, j'ai pas envie de faire des grosses pièces. Donc je vais plus m'inscrire sur des petits objets. Par exemple, des fois, je me dis, tiens, j'ai envie de faire un jeu d'échecs. Donc là, ça va me prendre 3-4 jours. Je suis content de le faire parce que c'est des petites pièces et puis je vais pouvoir m'inscrire dans le jeu d'échecs. Et puis d'autres fois, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de faire des choses un peu plus... plus costaud, des assiettes, des bols, des choses comme ça. Donc là, je vais couper des morceaux de bois et puis je vais pouvoir rentrer dans la matière. Ça dépend des jours. C'est pas, il n'y a pas d'explication à cela. C'est vraiment au feeling. Et pas mal, j'ai pas mal de commandes. Des commandes, des gens qui me demandent des choses spécifiques. Ça peut aller, bon, des assiettes. Ça peut aller d'un objet qui leur manque pour réparer une chaise. Bon, du moment que c'est tourné, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, j'ai fait des maillets, enfin des manches pour des marteaux. Ben voilà, la personne me dit, bon, j'ai des vieux marteaux, est-ce qu'on pourrait mettre des manches? Bon, ben voilà, j'ai fait des manches. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais bon. Voilà, donc j'essaye d'être aussi un peu un, entre guillemets, service public. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin, les gens ont besoin d'un objet qu'ils ne trouvent pas dans le commerce, ben je leur tourne. Bon, et puis généralement, c'est des petits objets, donc ils sont étonnés du prix que je fais, parce que ça ne me prend pas longtemps, si ça me prend 10 minutes, bon ben voilà, je ne vais pas leur faire 50 euros à un objet de 10 minutes. Donc moi, je prends 40 euros de l'heure, ce qui n'est pas très cher pour un artisan. Peut-être que je vais augmenter mes prix, vu l'état de l'essence. Mais bon, voilà, donc si je mets 10 minutes pour faire un objet, ben, ça fait 10 euros, quoi. Après, bon, généralement, les gens comprennent le prix. Alors, on a des prix vraiment différents ici. Hein. Ça va de 5 euros pour la toupie ou 5-6 euros pour la toupie jusqu'à 300 euros pour des objets qui sont sculptés, peints, enfin bon. Donc, on essaye d'avoir une gamme de prix pour tout le monde. Donc, c'est pas évident parce que quand les gens rentrent dans l'atelier, en général, les personnes trouvent très beau ce que l'on fait. Alors, je voudrais quand même préciser que je suis pas tout seul à travailler ici. Il y a aussi mon épouse qui fait toute la partie graphique. Tout ce qui est peint sur les objets, c'est elle qui le fait. Elle sublime un peu les objets que je tourne. Et ça fait, pour certaines pièces, c'est vraiment des pièces qu'on peut considérer comme des pièces d'art plutôt que d'artisanat.
Est-ce que tu peux nous dire où tu vas chercher ton bois pour faire tous tes beaux objets comme ça, là? Ah.
Alors, mes fournisseurs. Alors, je vais chercher mon bois. Le bois sec, je l'achète à la Syrie Forest, qui se trouve à Châtes. Alors, Châtes, c'est une ville qui se trouve entre Grenoble et Romans, vers Saint-Marcellin, par là. Donc, c'est une scierie. Et donc, là, c'est une scierie particulière où ils sont spécialisés dans les bois d'ébénisterie. Donc, on va pouvoir trouver du noyer, des arbres fruitiers, donc le noyer, le cerisier, le merisier, de l'érable. Enfin, bon, tous ces bois-là qui sont intéressants pour les tourneurs. Et particulièrement, quand je vais là-bas, je choisis mes bois et je choisis ce que, généralement, les ébénistes ne veulent pas. C'est-à-dire que si le bois est fendu, ça ne me dérange pas trop. S'il y a des nœuds, s'il y a des défauts dans le bois, au contraire, presque ça m'arrange. Donc je vais pouvoir choisir ces plateaux. Alors j'achète ça en forme de plateau. J'en achète pour un mètre cube à peu près en gros sur plateau, mais ça me dure un an, deux ans. Okay. Hein, j'y vais rarement, quoi, parce que ça fait loin. C'est cher, oui et non. Généralement, je m'en tire pour 500, 600 euros. Ça dépend des bois que j'achète. Hein. Il y a des bois, par exemple, comme le noyer, qui s'évalue maintenant à 1600, voire 2000 euros le mètre cube. Et du bois comme le hêtre ou l'érable sont à 600 ou 700. Enfin, maintenant, je crois que ça a augmenté. Mais bon, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a deux ans. Ensuite, il y a des gens, par exemple, qui passent me voir et me disent « Ah ben, j'ai coupé un arbre, est-ce que ça t'intéresse un morceau de bois ?» Alors là, par contre, c'est du bois vert. Donc, soit il faut que je le fasse sécher, mais il faut considérer 1 cm par année. Donc, si on me donne un bio qui fait 30 cm, il va me falloir 15 ans pour le sécher. Bon, là, je crois que j'aurais arrêté de tourner. Donc, je tourne du bois vert. Donc, le bois et le problème du bois vert, c'est si je ne le tourne pas, il va fendre. J'ai une cave où j'ai plein de bois. Il peut fendre. Alors, à ce moment-là, je suis obligé de le recouper et faire des objets plus petits. Mais si je veux faire des saladiers, c'est pour ça que je ne suis pas très spécialisé dans les grosses, grosses pièces. Si je dois faire des saladiers, il faudrait beaucoup plus d'espace ici pour avoir des gros billots et les tourner assez rapidement pour pas qu'ils se fendent. Donc voilà où je me fournis. Après, il n'y a pas que le bois. Il y a aussi tous les produits de finition. comme l'huile, alors j'utilise beaucoup d'huile, de la colle aussi pour pouvoir récupérer certaines fissures, faire certains défauts dans le bois. Là, c'est j'ai un fournisseur qui se trouve à Puy-Saint-Martin. Ça s'appelle Auprès de mon arbre. Donc, je commande soit sur Internet ou je vais les voir aussi, c'est des copains. Enfin, c'est devenu des copains. Et donc, toutes les parties consommables, on va dire, ça coûte presque autant que le bois, quoi, quelque part. Il y a pas mal d'huile, tu vois, tout ce qu'il y a sur les étagères là-bas. Donc, j'ai de l'huile, j'ai des produits de finition, surtout des produits où je vais pouvoir poncer. J'ai des brûleurs pour pouvoir brûler le bois, des fois, de temps en temps. Donc, ça, c'est pour du texturage. Et puis, évidemment, les outils. Les outils que tu vois ici, donc il y a plein d'outils. Alors, pour débuter, on a besoin que de 6 outils, en fait. Hein. Alors, on a besoin d'un tour, évidemment. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'avoir un gros tour comme celui-ci, mais on peut avoir des petits tours. Et après, il faut 5-6 outils pour quelqu'un qui veut débuter. Et il faut aussi de quoi affûter notre outil. On travaille beaucoup avec le corps, en fait, en tournage. Hein. Faut plus qu'il y ait de petits brillants ici, tu vois, sur le bord. Okay. Ouais. Donc là, il va y avoir un problème quand je vais couper. Il faut vraiment que ça soit plat.
Ouais, tout lisse. Ouais,
tout lisse. Ici, tu vois, il y a ce qu'on appelle une arête. Ouais. Donc quand on va couper, il va y avoir cette arête qui va se voir sur le bois. Pour un tourneur en amateur, pour 2000 euros, 2500 euros, il peut avoir du très bon matériel neuf sans passer par de l'occasion. Alors il faut de la place par contre, ça c'est le problème. Alors moi tu peux voir que j'ai pas mal d'outils parce qu'à force, depuis 10 ans que je tourne, comme je suis un peu amoureux des outils, à chaque fois j'en achète, dès qu'il y a un truc nouveau qui se fait, à un moment donné je le faisais, maintenant je le fais plus. Voilà. Et puis j'en fabrique aussi, quand j'ai besoin de faire un objet spécifique, je prends un vieux ciseau à bois, je le transforme, je le mets exactement pour pouvoir faire une forme spécifique. Donc ça c'est aussi intéressant.
Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières dans ce métier-là ?
Oui. Alors, c'est pas une difficulté. Alors, il y a tout un revers de la médaille dans tout. Hein. Tout n'est pas tout rose. Alors, le gros problème du tournage sur bois, c'est la poussière. Donc, je respire pas mal de poussière. Donc, mettre des masques, c'est contraignant pour tourner. Il faut en mettre un, c'est sûr. Mais quand il y a des gens qui viennent, je suis obligé de l'enlever. Tout ça. Alors, des fois, je ponce. Je mets pas forcément le masque, donc je respire beaucoup de poussière. Donc, oui, ça, c'est le gros inconvénient du tournage. Mais bon, on peut pas faire sans. Hein, la poussière, c'est quand même quelque chose de... C'est le point noir, on va dire, de ces métiers-là, que ce soit du tournage, enfin tous les métiers de bois. J'ai de quoi me protéger, des protections, mais les mettre à chaque fois, soit j'y pense pas, ou soit j'ai pas envie. Ou alors si j'ai envie d'écouter, parce que des fois, certaines pièces peuvent faire du bruit, donc je mets un casque. Alors plutôt que mettre un casque anti-bruit, je mets un casque avec de la musique, ou j'écoute des émissions ou autre, j'écoute Erdiwa... par exemple. Mais bon, et à ce moment-là, je ne peux pas mettre de masque. Enfin, il faut choisir. Donc, ou le masque, ou le casque, ou la visière. Enfin bon, ce n'est pas évident, quoi. Donc, alors, j'essaye d'avoir des aspirations. Ici, j'ai un matériel, tu vois. Je peux te... Voilà, donc ça fait un peu de bruit. Alors, si en plus on tourne... C'est bien d'avoir quelque chose qui, surtout si c'est long, si c'est pendant, alors quand je dis long, c'est pendant un quart d'heure, 20 minutes, je mets un casque. Mais à ce moment-là, je ne peux pas mettre de visière, je ne peux pas mettre de masque pour la poussière.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos que cuando los abro.
Ensuite, l'autre point, des fois, ce qui est difficile, alors ça, c'était arrivé surtout au début, après ma formation. Alors, pour la formation, c'était vraiment 6 mois super avec des copains. On tournait, on était ensemble et il y avait une grande motivation de groupe, en fait. Hein. Et puis, quand je me suis retrouvé là tout seul devant mon tour, ils me disent « Qu'est-ce que je vais faire de ce morceau de bois ?» Et là, il n'y avait plus les copains derrière. Ils me disent « Ah bah tiens, on devrait faire ça, on devrait faire ci. » Ou même le prof qui disait « Vous allez faire telle chose, vous allez élaborer telle technique. » Là, ça a été compliqué. Là, Alors, je n'étais pas encore ouvert. Il n'y avait pas encore la vitrine. Dans un premier temps, ici, c'était un garage. Donc, j'ai tout installé pour faire un atelier. Donc, j'ai mis de l'OSB. L'OSB, c'est pratique parce qu'on peut mettre un clou, l'enlever, mettre tous les outils. Donc ça, c'est super. Mais j'avais encore une porte de garage ici. Donc je tournais, j'étais tout seul. Et là, je me dis, mince, là, c'est compliqué. On se retrouve un peu face à soi-même, face à son tour, son morceau de bois et les techniques qu'on nous a apprises, mais qu'on n'a pas forcément acquises complètement. Donc, pour donner un ordre d'idée, au début, quand je faisais une toupie, un quart d'heure, 20 minutes, j'étais content. Maintenant, en 2 minutes, je la fais parce que j'ai eu un jour, on a eu une commande de 200 toupies à faire. Donc là, il fallait en faire. C'était pour les jumeaux, voilà, les vis jumelées. Donc il y avait 250 personnes qui venaient. Et moi, j'avais eu l'idée de faire des toupies pour chacun des personnes. Ils marquaient sur le stylo un mot. On remettait ça dans un panier. Et après, chaque personne prenait au hasard une toupie. Et puis quand il faisait tourner la toupie, le mot s'envolait un peu comme les moulins à prière au dépal, etc. Bon, c'était rigolo. Mais n'empêche qu'il y a eu 250 toupies à faire. Et donc là, moi, c'était bénévole. Ils m'ont payé juste le bois parce que je faisais partie aussi du truc. Et ça me plaisait bien. Mais à force de travailler le geste, en série, à faire de la production comme ça, tu apprends ton geste et après tu es à l'aise. Maintenant, des fois on se fait des concours de vitesse pour créer une toupie avec les copains et là en moins d'une minute on se fait une toupie, quoi. Donc il y a le geste technique qui est répété. Donc ça, c'est intéressant de voir que tous les gestes répétés, c'est acquis. Mais il y a une expérience qui avait été faite par un Américain, justement, un tourneur. Dans une école, il avait séparé la classe en deux. Il a dit, vous faites un œuf. Vous avez tant de temps pour faire un œuf. Et puis l'autre partie de l'autre groupe, vous faites le maximum d'œufs. Vous en faites un maximum, peu importe comment s'il est beau ou pas beau, vous en faites un maximum. Et le résultat, dans ceux qui devaient faire un œuf parfait, un seul œuf parfait, il n'y en avait aucun qui avait réussi. Par contre, dans ceux qui avaient fait une dizaine, une vingtaine d'œufs, il y avait quelques œufs qui étaient réussis. Donc, on est obligé de passer par de la production et de la série pour pouvoir faire un objet, un bel objet. Après, alors si, ça c'est une grande question qu'on a tous, les artisans, je pense, pas que les tourneurs, mais pour avoir discuté avec pas mal de copains, c'est dire, là il y a Noël, est-ce que j'ai assez d'objets ? Donc, il va falloir que je travaille pour avoir pas mal d'objets pour pouvoir présenter. Parce que ce n'est pas parce qu'il y aura une cinquantaine d'objets que les 50 vont être vendus. Est-ce que j'ai assez d'objets ? Et puis, une fois qu'on les a faits, on dit, est-ce que ça va se vendre ? Puis quand on a vendu, quand on a bien vendu, on se dit, mince, il va falloir que j'en fasse d'autres parce qu'il n'y a pas qui arrive ou parce qu'on travaille beaucoup. Alors, bien sûr, on a des commandes, mais il y a quand même des points phares sur l'année. C'est Noël et l'été. Donc ça, c'est... Et puis pendant les vacances scolaires aussi, il y a pas mal de gens, des touristes qui viennent, peuvent avoir un coup de cœur sur une pièce et m'acheter une pièce.
Est-ce qu'on vit du métier de tourneur ? Comment ça se passe ?
Alors, vit-on du métier de tourneur ? Alors déjà, je pense qu'on n'en meurt pas, enfin j'espère. Après, c'est un métier de passion. Donc je ne roule pas en Mercedes, je ne vais pas aux Bahamas. Donc la vie à 10, c'est très bien parce qu'elle me convient, j'ai peu de dépenses, même dans mes enfants sont grands, ils sont autonomes, donc j'ai moins de dépenses aussi. J'aurais pas pu faire ça avec une vie de famille, avec des enfants, tout ça, c'est plus compliqué. Voilà, maintenant j'ai moins de besoins, je vis ma passion, donc ça c'est très bien. Est-ce que ça dépend ce que l'on veut aussi, hein. Si on a besoin de beaucoup d'argent, on fait pas ce métier-là. Ou alors, il faut percer. Et là, il aurait fallu que je commence beaucoup plus jeune. Donc, quelqu'un qui a 30 ans, qui a des idées, qui a la pêche, il va pouvoir faire des salons, s'inscrire dans des... Bon, j'ai des copains qui tournent aux États-Unis, qui tournent un peu partout. Ils ont commencé plus jeunes que moi, déjà. Moi, j'ai commencé très tard, 54 ans, c'est tard. Donc, on n'a plus la pêche pour pouvoir se déplacer dans la France entière pour pouvoir présenter ses objets, etc. Bon, je l'ai fait une ou deux fois, mais ça me convient pas. Ensuite, il y a Internet. On me dit, on va pouvoir faire vendre sur Internet. Alors, on a essayé de faire un site de vente avec des trucs, mais ça marche pas parce que... Pourquoi ça marche pas ? Parce que j'ai pas l'envie de prendre mes photos le soir, de faire des selfies, des machins, des... C'est pas mon histoire. Donc, finalement, j'ai mon atelier, les gens viennent me voir ici, ça me suffit. Si j'avais besoin d'avoir plus d'argent, il faudrait que je fasse autrement, effectivement. Mais j'ai pas cette pêche-là pour ça. Moi, j'ai envie d'être tranquille, voilà. Maintenant, bon, on ne me l'a pas encore posé, mais j'ai 62 ans, donc voilà. Là, j'ai envie de vivre tranquillement de mon métier. J'ai pas envie de le lâcher, hein. Et puis j'ai d'autres passions aussi. J'aime bien faire de la musique. J'aime bien. Donc voilà, tout ça, faut l'intégrer dans le tout. Et est-ce qu'on en vit Moi, je pense que s'il y avait une personne qui devait reprendre cet atelier, enfin ou ce style d'atelier, il faudrait soit qu'il se fasse un nom avec des créations vraiment spécifiques, qu'il soit reconnu en France et même dans mondialement connu. Parce que bon, l'avantage du métier de tourneur, c'est que c'est une corporation très très, c'est très amical quoi. Hein, et on se tient un peu les coudes. Enfin, on se tient les coudes. C'est pas la question, mais les tourneurs dans la région professionnelle, je les connais presque tous. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on s'échange plein d'informations sur des techniques qu'on découvre. On n'est pas là à garder notre secret.
Mais du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une parole que tu as envie de nous transmettre, quelque chose en plus en... Alors,
oui, il y a quelque chose d'important sur le métier de tourneur. J'ai trouvé des gens, les personnes qui m'ont montré ce métier n'étaient vraiment pas avares de montrer leurs connaissances. Et ça, c'est vraiment c'est très généreux. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que dans les années... Alors, le métier de tourneur, c'est quoi au départ? Au départ, c'est une personne, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'ébénisterie. Hein. C'est une spécialité de l'ébénisterie, donc il fait les pieds de table, les bobèches. Les bobèches, c'est tous les petits, dans les églises, ce qu'il y a sur les sièges ou des choses comme ça, tous les petits objets tournés, enfin des décorations. Hein. Donc c'est vraiment très spécifique. Et bon, par exemple, Jean-François Escoulen, qui a tourné dès l'âge de 14 ans, son père était tourneur, ben, il faisait des pieds de table et des pieds de table et des pieds de table. Quoi. Il n'arrêtait pas d'en faire. Et dans les années 75, par là, avec l'arrivée des nouvelles machines, de Pierre Import, de l'IKEA, enfin bref, il n'y a pas de mal à cela. Hein. Le métier a chuté au niveau de la production des pieds de table. Donc, eux, ils ont eu l'idée, avec Jean-François Escoulet, justement, et puis les Anglais, ils ont eu l'idée de se dire on va partager nos connaissances pour pouvoir continuer, sinon on est mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont partagé leurs connaissances. Et c'est devenu maintenant du tournage d'art. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle les petites journées. Il y a un congrès de tourneurs à Eguine. Eguine, c'est la ville où il y a justement cette école. D'ailleurs, cette année, c'est des journées extraordinaires puisque ça fait 10 ans que l'école existe. Donc là, ça va durer 3-4 jours. Il y a des tourneurs du monde entier qui vont faire des démonstrations et autres. D'ailleurs, moi, je vais faire une démonstration pour les derviches tourneurs. Ils m'ont invité et donc là on montre ce que l'on sait faire, on montre ce que l'on a réfléchi, ce que l'on a trouvé, et généralement souvent ça se termine, voilà, je vous ai montré ça, allez plus loin, ne copiez pas ce que je fais, ça sert à rien, mais allez plus loin dans l'histoire. Souvent Elie Wiesera par exemple, qui est un tourneur israélien, j'avais été faire il avait fait une démonstration et une à un moment donné, à la fin, il disait je vous ai montré les choses, mais allez plus loin. Donc, garder une connaissance par peur de. Parce que c'est son secret, parce qu'on a peur de se la voler, que c'est ridicule.
Et tu disais tout à l'heure que tu aimais bien écouter de la musique ou des émissions ou pendant que tu travaillais des fois. Est-ce que tu aurais une musique en particulier à nous conseiller?
Ça dépend de mon état d'humeur. Alors quand j'ai envie de nettoyer l'atelier, parce que j'ai besoin de... j'écoute Led Zeppelin. Quand j'ai envie qu'on m'embête pas, que je suis un peu un renfrogné, que j'ai envie qu'on me foute la paix, j'écoute du Coltrane. Au moins les gens ils sont tranquilles, c'est... sinon, quand je suis un peu tranquille, j'écoute pas mal de classiques, des choses du Bach, du Mozart, tout ça. Parce qu'il y a aussi l'ambiance de l'atelier. Hein, quand les gens rentrent, en plus, il y a un morceau de Chopin ou des choses comme ça. Il y a une ambiance musicale, il y a une ambiance sonore, en plus de l'odeur et en plus des objets. J'aime toutes les musiques. C'est les musiques du monde, les musiques... Alors ça dépend vraiment du moment. Ah bah tiens, on va écouter ça. J'aime bien. Alors, j'aime bien aussi la musique chilienne, Violeta Parra. Ah, j'adore, c'est trop beau. Alors, attends que je retrouve. Bibliothèque, voilà. Ah, bah tiens, on va écouter ça. C'est Dollar Brand.
Alors, quand je touche, je suis obligé de mettre fort.
Thank you. African hoes.